C'est bon. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler du deuxième mystère que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et il est mentionné dans l'épître de Paul aux Éphésiens et au chapitre 3. La première fois, nous avons parlé d'un mystère, celui de Christ et de l'Église, cette union extraordinaire et révélé dans le Nouveau Testament entre Christ et l'Église. Et là, on va parler d'une autre union, Éphésiens 3, verset 6. Alors, je vais lire pour avoir le contexte à partir du verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, quel est donc ce mystère révélé ici qui n'avait pas été révélé avant de cette façon? C'est que juifs et non-juifs forment un même corps, participe à la même promesse. Mais avant de développer tout cela, j'aimerais qu'on regarde ces versets que je viens de lire. Il dit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Quand il dit l'intelligence, il ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que les autres, qu'il a un quotient intellectuel plus élevé. L'intelligence dans la Bible, ce n'est pas l'intellect, justement. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses spirituelles. Quand dans la Bible vous lisez voilà quelqu'un d'intelligent, ça veut dire qu'il est capable de comprendre les choses spirituelles. Et comment devient-on capable de comprendre les choses spirituelles? Est-ce qu'il faut faire 25 ans de théologie? Non. On peut faire 25 ans de théologie et ne pas être intelligent spirituellement, malheureusement. L'intelligence spirituelle, c'est pour ceux, justement, qui aiment le Seigneur, qui étudient sa parole et qui veulent savoir la vérité, qui sont sincères et qui cherchent la vérité. Ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux professeurs de théologie, c'est pour tout chrétien qui a le Saint-Esprit. Il peut devenir intelligent spirituellement, pourvu qu'il ait un cœur qui veuille comprendre. Des fois, quand on est trop intellectuel, on devient orgueilleux et on perd son intelligence spirituelle. Parce qu'on dit, mais moi je sais tout déjà. Moi j'ai fait des études. Ça je le sais, ça je le sais. Et au lieu d'aller vers Dieu, au lieu de demander au Saint-Esprit sa compréhension, on fait confiance à sa raison humaine. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église lorsque des philosophes chrétiens ont commencé à étudier la Bible avec uniquement leur raison humaine. Et ils ont changé la Bible, qui est la parole de Dieu, en quelque chose qui n'est plus la parole de Dieu, puisqu'ils ont commencé à dire, oui, mais ça, c'est pas vraiment inspiré, et ça, c'est pas vrai, ça, c'est des légendes, ça, il n'a pas pu dire ça. Ils ont commencé à démolir la Bible, tout en se disant chrétien et théologien. Donc, l'intelligence spirituelle, c'est cette capacité de comprendre les choses spirituelles parce qu'on est ouvert à Dieu. Je vous cite un Corinthien qui nous dit ça. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. Il parle de ces vérités spirituelles, justement. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc ces choses spirituelles sont uniques. On ne peut pas les apprendre comme ça dans les écoles, les universités. Il dit, ce sont des choses, néanmoins, que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, pour devenir intelligent, il faut que le Saint-Esprit nous révèle la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle se trouve dans la Bible. Le Saint-Esprit ne va jamais révéler quelque chose qui n'est pas dans l'Écriture. Il est écrit, hein, c'est même Jésus qui le dit, que je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne parlera pas de lui-même, C'est-à-dire le Saint-Esprit n'a pas une autonomie dans la Trinité où il dit, moi tiens, moi je vais te dire ça, Jésus il a dit ça, mais moi je vais dire ça. Non. Tout ce que le Saint-Esprit dit, c'est nous rappeler ou développer ce que Christ a dit. Et le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons reçu par la foi en Christ, et lorsque nous lisons la Bible, nous éclaire, nous ouvre les yeux spirituels pour comprendre ces vérités extraordinaires. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui ont fait peu d'études, qui comprennent les vérités spirituelles beaucoup mieux que des universitaires et des théologiens qui ont des doctorats. Donc Paul nous dit, voilà l'intelligence que j'ai du mystère de Dieu. Alors ce qui est fort chez Paul, c'est qu'il était un érudit. Il avait étudié dans les écoles rabbiniques, il avait appris aussi le latin parce qu'il était citoyen romain, il avait dû lire pas mal d'auteurs puisqu'il cite des auteurs grecs et latins. Donc c'était une tête, comme on dit. Eh bien, il n'a jamais laissé cette connaissance lui cacher les yeux spirituels. D'ailleurs, il dit même en Philippiens, « Toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue, afin de connaître Christ. » Et quand il disait « toutes ces choses », il voulait dire tout son curriculum vitae. Vous savez, le curriculum vitae, vous mettez tout ce que vous avez fait, tous vos diplômes et vos activités professionnelles. Eh bien, lui, il avait un sacré curriculum. Pharisien de la tribu de Benjamin, qui était une tribu assez réputée parmi les 12. Élève de Gamaliel. En plus, c'était un super pharisien parce qu'il avait participé à la persécution des chrétiens, donc il avait une autorité politique presque. Il dit, tout ça, j'y ai renoncé. Pour moi, c'est devenu de la boue parce que je veux connaître Christ. Ça, c'est la vraie intelligence spirituelle. Je continue, il dit, je reviens à Éphésiens 3, verset 5, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit. Les autres générations, c'est l'Ancien Testament, évidemment. Il veut dire que ce mystère qu'il va maintenant nous révéler n'a pas été manifesté dans l'Ancien Testament comme il va le faire. Ça ne veut pas dire que ce mystère était totalement inconnu. On va voir des versets qui montrent que dans l'Ancien Testament, cette idée que juifs et non-juifs participent au même salut était déjà présente. Mais ce n'était pas très clair. Aussi clair que là. Il dit, comme ça a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Alors, on peut s'étonner de voir le mot aux saints apôtres. Pourquoi dit-il ça? C'est que si vous regardez les auteurs des livres bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ceux qui ont écrit les livres de la Bible étaient inspirés par Dieu, mais c'était des personnes qui vivaient près de Dieu. C'était justement des hommes saints dans le sens qu'ils étaient mis à part, sanctifiés et qui vivaient pour le Seigneur. Dieu n'inspirait pas des gens qui vivaient dans le péché. C'est très important ça. Le Saint-Esprit ne bénit pas le péché et la désobéissance. Et pour être prophète du Seigneur, il fallait être consacré, vraiment obéissant à Dieu. Il parle des apôtres et prophètes de Christ, là. Il ne parle pas de l'Ancien Testament, il parle de Christ. Donc, il y avait des prophètes de l'Ancien Testament, il y avait des sortes d'apôtres, on peut dire que Moïse était à la fois prophète et apôtre, hein. Mais c'est surtout dans le Nouveau Testament qu'il y a ces apôtres. Les apôtres, c'était qui? C'était ceux qui ont été choisis par Christ pour établir son Église. Les prophètes de Christ, c'est ceux qui recevaient du Saint-Esprit les révélations et l'écriture, en fait, du Nouveau Testament. Parce que Christ est venu apporter le salut, l'évangile, mais maintenant il fallait tout expliquer à ces juifs qui venaient de croire en Jésus. Il fallait tout révéler, il y avait même des choses importantes. Et ce mystère-là dont on va parler ce soir, il fallait qu'il soit bien expliqué, parce qu'au début, il n'y avait que des juifs qui ont cru à Jérusalem. Et pour que ces juifs acceptent que des non-juifs soient dans l'église avec eux, ça a été très difficile. Si vous vous rappelez le livre des Actes, Pierre ne voulait pas le faire. Il a fallu que Dieu lui montre une vision, hein, et qu'il aille finalement chez ce dénommé Corneille. Mais sinon, Pierre ne voulait pas y aller. Et même Paul nous dit en Galates qu'il a dû reprendre Pierre, parce que Pierre était hypocrite avec les Juifs. Il judaïsait avec les Juifs et il se séparait des païens parce qu'il voulait bien plaire aux Juifs judaïsants. L'Épître aux Galates tout entière est là pour répondre aux Juifs qui voulaient circoncire les païens. Ils ont dit non, si les païens veulent être comme nous dans l'Église, il faut qu'ils soient circoncis. Et là, il a fallu la révélation de ce mystère, hein, que Juifs et non-Juifs sont désormais un dans l'Église, ils font un même corps, pour que finalement les Juifs acceptent et comprennent cette réalité. Il faut se mettre un peu à leur place, si on peut dire, à cette époque-là. Et vous allez voir que c'est troublant quand on se met à leur place. Et puis il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. On peut lire Éphésiens 2,14, il dit, Christ est notre paix, lui qui des deux, c'est-à-dire juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, en ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. J'aimerais dire quelques mots. Ici, donc, il nous explique que les non-juifs sont égaux devant Dieu en tant que peuple de Dieu. Et ça, c'était impensable pour les juifs. Pour les juifs, Israël est le peuple élu. Les gentils, c'est-à-dire, il les appelait les goyim, comme il les appelle toujours d'ailleurs, eux, on les tolère parmi nous. Ils vont s'appeler des prosélytes. Mais il faut qu'ils soient circoncis, mais qu'on forme tous ensemble le peuple de Dieu, le corps de Christ. Alors là, c'était impensable. J'aimerais parler du mot qu'on emploie là, ici, dans ma Bible Second, j'ai le mot païen, verset donc, 3, Éphésiens 3,6. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps. Le mot qui est employé en latin, c'est le mot gentilis, c'est-à-dire ce qui a donné gentil. Dans certaines Bibles, on parle des gentils, je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, gentilis, c'est un mot latin qui veut dire d'une certaine famille, d'une race noble, d'une famille noble. C'est ça que ça veut dire. Quand on disait ça, c'est quelqu'un de gentil, ça veut dire c'est quelqu'un d'élevé. Donc, c'était un compliment au début. Et après, le mot a évolué pour donner aujourd'hui quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui est généreux. Et c'est curieux, hein, comme le mot a évolué, il est passé de noble pour aller jusqu'à généreux. Voilà. Mais au départ, ça veut dire quelqu'un qui est d'une catégorie noble à part, un peu élevée. En hébreu, le mot qui est utilisé pour désigner les non-juifs, c'est le mot nation. Vous avez remarqué dans la Bible, souvent, il parle des nations. Quand il parle des nations, il ne veut pas dire la Yougoslavie, la Pologne, non. Les nations, c'est un mot qui veut dire les non-juifs. Dans l'Ancien Testament, vous avez les juifs et les nations. Dans le Nouveau Testament, vous avez les juifs et les païens. Mais c'est la même chose, en fait. Hein? C'est la même idée. Sauf. Alors là, je suis désolé, je ne veux pas vous embrouiller, hein. Mais comme quoi les mots, des fois, on les emploie d'une mauvaise manière. Sauf que goy en hébreu, ça veut dire nation, une nation, et que c'est employé pour Abraham et pour Israël. Par exemple, en Genèse 12, 2, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un goy. C'est presque amusant comme phrase, hein. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je ferai de toi une nation, un peuple. Tu seras, toi là, tu es un homme, Abraham, mais moi je vais faire de toi une nation entière. Goy, c'est le même mot. Dans Josué 3,17, il parle d'Israël et il décrit Israël comme une nation. Goy aussi. Donc le mot goy veut dire nation, mais les Juifs l'ont. Ont changé l'utilisation pour désigner uniquement les goyim, c'est le pluriel de goy, qui veut dire les non-juifs. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait des non-juifs qui croyaient au Seigneur. Est-ce que vous avez un exemple? Ruth, par exemple. Ruth n'était pas juive, elle était moabite, hein, du pays de Moab. Ce n'était pas des juifs. C'était peut-être sémite, mais pas juif. Qui d'autre? Job, il n'était pas juif parce qu'il était avant Jacob. Alors effectivement, il ne pouvait pas être juif. Mais Rahab, la fameuse prostituée au temps de Josué, qui, lorsque l'armée va attaquer Jéricho, et Rahab va vers les Israélites, elle dit, moi je crois en votre Dieu, hein, et ils épargnent sa vie. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a des non-juifs qui croient au Seigneur, qui craignent Dieu. Je pense aussi à Élie qui va, ou Élisée qui va vers la veuve, hein, une veuve de Sidon, et là, elle l'accueille et on voit qu'elle est touchée par le Dieu d'Élie. Également, la reine de Séba qui va voir Salomon et qui peut-être s'est convertie. Là, la Bible n'est pas claire. Et puis, les habitants de Ninive, à la prédication de Jonas, hein, qui se repentent et demandent pardon à l'Éternel. Donc il y a pas mal de cas, mais pour être vraiment membre d'Israël en étant non-juif, il fallait être circoncis et sacrifié au temple. Par exemple, je lis en Exode 12, 48, cette recommandation de Moïse, parce que parmi le peuple qui suivait Moïse, il y avait un certain nombre d'étrangers qui n'étaient pas juifs. Exode 12, 48, et il dit, si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout homme de sa maison devra être circoncis. Alors, il s'approchera pour la faire et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène, c'est-à-dire le juif, comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Donc, on pouvait, en tant que non-juif, croire à l'Éternel, même participer à la Pâque. La Pâque, c'est quand même le centre du culte hébreu. C'est là où on sacrifie l'agneau, hein, en souvenir de la délivrance, de la rédemption. C'est là où on peut comprendre le salut même, hein, par cet agneau en appliquant le sang sur sa maison. On peut dire, voilà, j'accepte le pardon de Dieu. Eh bien, pour être accepté en tant qu'étranger, il fallait être circoncis. Au temps de Jésus, depuis quelques siècles, il y avait deux catégories de non-juifs qui suivaient Israël. Il y avait les prosélytes et il y avait les craignants Dieu. Les prosélytes, c'est ceux qui s'étaient vraiment convertis au judaïsme et qui avaient été circoncis. Ceux-là, ils étaient très intégrés à Israël, et même s'ils étaient là depuis plusieurs générations comme juifs, ils pouvaient avoir quelqu'un de la famille qui devienne prêtre. Donc c'était très important, hein. Un non-juif pouvait avoir un descendant qui devienne prêtre, sacrificateur, s'il était là depuis assez longtemps. Les craignants Dieu, ils n'étaient pas circoncis. Corneille, par exemple, dans Actes 10, il est appelé un homme craignant Dieu. Ça veut dire qu'il n'était pas circoncis, mais qu'il respectait et qu'il avait beaucoup d'admiration, et même on peut dire de foi, pour le Dieu des Juifs. Voilà. C'était les deux catégories de croyants étrangers, non-juifs, au temps de Jésus. Jésus fait des reproches aux pharisiens, il leur dit, hein, vous allez parcourir le monde pour faire des prosélytes pires que vous. Pourquoi il leur fait ce reproche? D'ailleurs, ça a donné le mot prosélytisme, hein. Parce que les pharisiens, quand ils faisaient un prosélyte d'un étranger, ils n'en faisaient pas un croyant sincère au Dieu d'Abraham, ils en faisaient un pharisien borné comme eux. C'est-à-dire quelqu'un d'intransigeant, d'intolérant, manichéen, qui marche par les œuvres et non par la foi, et qui pense plus à tous les petits rites qu'à vraiment aimer le Seigneur. Donc Jésus leur fait ce reproche. Quant aux craignants Dieu, eh bien, il y avait un certain nombre de Romains, comme on le voit, qui étaient touchés par le Dieu des Juifs. Pourquoi ils étaient touchés, les Romains? Pourtant, ils avaient une culture bien supérieure, hein. Israël, la Judée, Galilée, Samarie, au temps de Jésus, c'était très pauvre, c'était désertique, c'était très paysan, très... Vraiment, il n'y avait rien d'admirable dans la civilisation des Juifs, sauf leur religion et leur foi. Et les Romains, qui avaient une pléthore de dieux, ils en avaient marre de tous ces dieux, de toute cette débauche, ces libations de vin, ces orgies. Il y en a qui commençaient à être dégoûtés. Ils me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ça, les vrais dieux. Il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de justice. Il y a un dieu qui dit une chose et l'autre qui dit une autre. Et ils étaient touchés par le dieu unique des Juifs. Ils disaient, voilà, là, il y a un vrai dieu, un créateur qui a tout créé, qui est unique, et qui nous parle, et qui a des prophètes, il a un livre, on peut lire dans son livre. Et c'est pour ça que les Juifs ont traduit l'hébreu de l'Ancien Testament, de l'hébreu au grec, hein, ce qu'on appelle la Septante, pour que justement les étrangers puissent lire et connaître. Sinon, il fallait apprendre l'hébreu, ce qui était assez compliqué. Le Seigneur Jésus est venu d'abord pour la maison d'Israël. Il l'a dit, hein, je suis venu premièrement pour la maison d'Israël. Mais on voit qu'il a aussi tendu la main envers les autres. Hein. Lorsque cette femme païenne, hein, syro-phénicienne, demande à être, que son enfant soit guéri, Jésus dit, mais je suis venu pour la maison d'Israël et il ne faut pas que le petit chien vienne prendre la nourriture des enfants. Il voulait dire, il ne faut pas que les non-juifs prennent la bénédiction, hein, réservée aux juifs. C'est ça qu'il voulait dire. Et cette femme a une réponse extraordinaire, une répartie. Elle a dit, oui, mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table des enfants. Je trouve ça tellement juste. Et Jésus dit, toi, tu as une foi admirable, plus grande même que celle des Juifs. Et il lui a accordé l'exaucement à sa prière. Donc, on voit que le Seigneur Jésus n'était pas non plus uniquement venu pour les Juifs. Et nous savons que Jésus est venu mourir pour l'humanité. Mais il a commencé par parler à son peuple, la maison d'Israël. C'est pour ça que la Bible dit que l'évangile est pour le juif premièrement, puis pour le grec, hein, ou le gentil, ou le non-juif, ou le goy, mettez le nom que vous voulez. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties sur le fait que le Messie parlerait non seulement aux Juifs, mais aux nations. C'est Ésaïe qui en a fait le plus. On peut regarder Ésaïe 42. Verset 1. Prophétie messianique. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice à qui ? Aux gentils, aux nations, aux non-juifs. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé. Donc il annoncera la justice aux non-juifs, le Messie. Ésaïe 49, verset 6. Une autre prophétie. 49, 6. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ici, l'Éternel dit à son serviteur, le Messie à venir, non seulement tu vas aller voir les tribus de Jacob, hein, tu vas aller parler aux Juifs, mais tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Évangile a parcouru, bien sûr, la terre. Un dernier verset, Ésaïe 55, verset 5. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Donc, des nations viendront, hein, écouter la parole aussi. C'était déjà une prophétie. J'aime aussi cette autre prophétie d'Ésaïe où il dit que lorsque Christ reviendra établir son règne, il y aura une route en Assyrie, en Égypte, vers Israël. C'est-à-dire que les Irakiens, les Égyptiens et les Israéliens iront tous au même endroit pour adorer le Seigneur Jésus. Voilà, ça c'est dans le futur. Pour l'instant, au Moyen-Orient, on n'en est pas là. Il faut s'attendre dans les jours ou les semaines qui viennent à la guerre irano-israélienne ou israélo-iranienne. L'Iran ne veut pas admettre qu'il fabrique des bombes atomiques. Les organismes internationaux atomiques sont allés les voir une dernière fois, ils n'ont pas eu de réponse. Les États-Unis ont fait des pieds et des mains pour demander à l'Iran de montrer patte blanche, de se soumettre. Ils ne veulent pas se soumettre. Et donc Israël dit, c'est notre survie. Avant qu'ils nous envoient une bombe atomique sur la figure, on va devoir intervenir. Ils ont déjà tout préparé. La chose, c'est que ça va être une campagne difficile. Ils ne peuvent pas juste bombarder trois petits sites comme ça. Il va falloir faire face à des armes anti-aériennes. Il va falloir traverser des frontières, notamment la Jordanie et l'Irak, probablement, avec des avions. Il va falloir plus d'une centaine d'avions pour tout détruire. Et ça va être une guerre. Ça va être une guerre. L'Iran a dit qu'il se défendrait bec et ongle. Ils ont des missiles très puissants. Ils sont armés par la Russie. Et c'est là que ça fait encore plus peur. Parce que vous avez remarqué que la Russie et la Chine sont derrière tous les pays horribles comme la Syrie et l'Iran. Si la Syrie et l'Iran sont attaqués par les forces occidentales, Europe, États-Unis, Israël, la Chine et la Russie risquent de vouloir les défendre et ça nous amène à une guerre mondiale. Sachant que la Chine est en train de s'armer comme elle ne l'a jamais fait jusque-là. La Chine a un budget de plusieurs centaines de milliards pour son armée, pour rénover son armée qui est très vieille. Hein. Sans parler du nombre de soldats qu'ils ont à disposition, corvéables à merci. Ça nous prépare des temps difficiles dans l'avenir. Néanmoins, un jour, il y aura la paix en Israël lorsque Jésus-Christ reviendra. Il n'y a que lui qui pourra amener cette paix. J'en viens à ce verset que j'ai lu aussi au début d'Éphésiens 2,14. Il dit que Jésus est notre paix, lui qui n'a fait qu'un des deux, donc juif et non-juif, et qui a renversé le mur de séparation. De quoi parle-t-il ? Est-ce que c'est juste une image ? Peut-être, mais il avait certainement en tête quelque chose dans le temple d'Hérode. Le temple où vivaient Jésus et Paul, c'était le temple construit par Hérode. Ce temple était immense et il avait plusieurs parvis, qu'on peut appeler aussi des cours. Il y en avait quatre. Le parvis des prêtres, le parvis d'Israël, le parvis des femmes et le parvis des gentils, des non-juifs. Ça veut dire que les prosélytes non-juifs qui craignaient l'Éternel et qui étaient circoncis pouvaient aller adorer au temple, mais ils avaient leur cour réservée. Ils n'avaient pas le droit de se mélanger aux autres et aux juifs. Ils allaient dans leur cour, les femmes avaient leur cour, et là, dans cette cour, ils achetaient les fameuses brebis vendues par les vendeurs du temple, avec la monnaie du temple, et ils sacrifiaient dans leur cour. Et il y avait un muret qu'on a retrouvé. C'est ça qui est intéressant. Les archéologues ont retrouvé un muret et ils ont retrouvé une pierre. Donc on peut regarder maintenant sur l'écran, qui est une trouvaille archéologique très très intéressante. Une pierre mentionnée par l'historien juif Flavius Joseph. Voilà. Sur cette pierre, il est écrit en grec: aucun étranger ne peut entrer derrière ce mur qui entoure le sanctuaire. Quiconque sera pris sera coupable de mort et exécuté. Donc, il y avait ce petit muret et cette pierre qui disait, attention, si vous passez derrière, c'est la condamnation à mort. C'était une pierre adressée aux non-juifs pour qu'ils n'aillent pas dans la cour des juifs. Et donc, il y avait un mur physique avec un panneau là, hein, d'avertissement. Ils n'avaient pas de barbelé, ça n'existait pas, mais c'était le panneau ici. On peut maintenant le cacher. Pour dire, juif et non-juif, on n'est pas pareil. On n'est pas mélangé. Il y a un mur. Et Paul dit, le mur a été abattu. Et ça me fait penser aussi au rideau, au voile qui a été déchiré. Non seulement le voile a été déchiré, on a le droit d'entrer dans la présence de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mais en plus le mur est abattu, les non-juifs peuvent aller rejoindre les juifs. Et on ne fait qu'un en Christ. Dans l'Épître aux Galates, Paul écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et c'est ça la révélation de ce mystère, c'est ça qui est nouveau, c'est que dans l'Ancien Testament, vous deveniez un disciple des Juifs, si on peut dire, hein, du Dieu d'Israël. Vous faisiez circoncire et vous vous associez à Israël. Dans le Nouveau Testament, vous êtes un, vous êtes cohéritier avec Israël. Vous n'êtes pas en dessous, vous n'êtes pas un invité qu'on tolère, vous êtes de la même famille. Dieu a désormais un peuple élu qui n'est pas composé de juifs uniquement, mais qui est composé de juifs et de non-juifs. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement tout ça? Ça veut dire que on ne doit plus faire de séparation entre les juifs et nous. Au temps de Paul, la majorité des chrétiens étaient d'origine juive. Et il y avait une minorité de païens qui venaient. Alors c'était à l'envers. Hein. Et donc il fallait encourager les juifs à aller évangéliser les païens. Un de ceux qu'il faisait le plus, c'était Paul, qui a été évangéliser les villes païennes de l'Empire romain. Pierre, lui, était plutôt avec les juifs de la diaspora. Hein. Il enseignait les juifs, les croyants juifs. Mais Paul, lui, est allé évangéliser les païens. Mais je pense qu'il a eu des... Non seulement, il a eu beaucoup de problèmes. Dans Thessaloniciens, il parle de ces judaïsants qui le suivaient partout et qui démolissaient son travail. Et même, il a finalement été arrêté parce que les juifs l'ont dénoncé comme un scélérat, un traître, tout ce que vous voulez, un révolutionnaire. Donc pour les juifs, c'était très dur d'admettre que des non-juifs soient chrétiens comme eux. Sans qu'il se fasse circoncire. Et c'est pour ça que dans Galates, il dit, il n'est pas utile de se faire circoncire. Vous n'avez pas le droit d'exiger ça. On peut être non-juif, chrétien, sans être circoncis. Maintenant, nous sommes dans la situation inverse. Il y a une majorité de non-juifs dans l'Église et une minorité de juifs. Et la tentation pour nous, c'est de demander aux juifs d'abandonner toute leur culture, de dire aux juifs, tu veux être chrétien, il faut que tu suives nos rites non-juifs. Tu dois abandonner la circoncision, tu dois abandonner tout ça. Tout ça, c'est du passé. Et je crois que ce n'est pas juste de leur demander ça. Et un juif peut être chrétien et continuer à célébrer la Pâque juive, mais il ne va pas la célébrer pareil. Tant qu'il était sans Christ, il célébrait la Pâque en pensant « un jour le Messie viendra ». Mais maintenant qu'il connaît le Messie, il peut célébrer la Pâque en disant « l'agneau qu'on mange là symbolise Jésus ». La délivrance, je l'ai parce que j'ai Jésus. Le deuxième pain, la fille qu'omène là, qu'on cache et qu'on retrouve, c'est Jésus qui est mort et ressuscité. Il est venu, hein, dit ce pain. On peut même avoir une réunion de Shabbat chez soi, le samedi, mais que cette réunion, au lieu d'être une réunion où on est là dans un fauteuil à dire oh, il ne faut pas que je bouge parce que sinon Dieu va me frapper, mais de faire de cette réunion une réunion de famille dans la Bible et de parler du Seigneur. Et puis, aller se réunir avec tous les frères le dimanche, évidemment. Pas séparer les réunions. Et il faut que les Juifs se sentent à l'aise avec nous et nous avec eux. Malheureusement, il y a certains groupes messianiques juifs qui ne sont pas à l'aise avec les non-juifs. Et il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas à l'aise avec les juifs. Il y a un antisémitisme latent chez les chrétiens, avec des fausses idées telles que l'église a remplacé Israël. Donc l'église n'a pas remplacé Israël. Les juifs sont toujours juifs et Israël est toujours Israël. Mais maintenant, nous sommes un en Christ. Ça ne veut pas dire qu'on a remplacé les juifs. Au contraire, on a accès à leurs privilèges, nous aussi. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, il dit, vous, les non-juifs, vous avez été greffés sur Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas les juifs qu'on tolère parmi nous, c'est eux qui nous greffent sur eux, hein, qui nous acceptent. Enfin, c'est eux, c'est le Dieu des juifs qui nous accepte. Ce qui est merveilleux, c'est que par exemple, en Israël, il y a des chrétiens arabes, palestiniens, qui ont cru au Seigneur Jésus, qui sont nés de nouveau et qui ont abandonné toute haine pour les Juifs. Hein, nous avons vu ce film qui était très édifiant. Et des Juifs israéliens qui ont cru au Seigneur Jésus, qui sont nés de nouveau, qui ont abandonné toute haine pour les Palestiniens et ils se sont rencontrés et ils ont fêter hein, leur retrouvaille, si on peut dire. Parce que cette haine qu'ils ont les uns envers les autres est artificielle. Elle est créée par le diable et par les hommes. Hein. Mais Dieu n'a jamais voulu cette séparation entre juifs et palestiniens et entre juifs et arabes en général. Mais il y a dans le monde arabe, depuis très longtemps maintenant, hein, un endoctrinement depuis l'enfance pour haïr les juifs. Ça a été le cas aussi en Europe avec l'Église catholique qui, pendant des siècles, hein, a dit que les Juifs avaient tué Dieu, étaient déicides, que c'était les Juifs qui avaient tué Jésus, et que les Juifs, ils aimaient l'argent, etc. C'est comme ça qu'Hitler a pu facilement les massacrer. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'est opposé, le pape de l'époque n'a pas fait grand-chose pour s'opposer, hein, on lui reproche encore aujourd'hui. Mais maintenant, nous qui connaissons le Seigneur, nous devons aimer. Les Juifs, c'est le peuple de Dieu. C'est d'eux qu'est venu le Messie, c'est d'eux qu'est venue la Bible. Ils ne sont pas meilleurs que d'autres. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux parce que nous avons été graciés par Dieu. Et nous ne méritions pas d'être sauvés, mais c'est Dieu dans sa grâce qui nous a offert son salut. Et il offre son salut aussi aux Juifs. Nous devons prier pour eux. Nous sommes heureux d'avoir des Juifs dans notre assemblée. Et on aimerait en avoir plus et en toucher plus autour de nous. Ce qui est extraordinaire, et c'est ma conclusion, c'est que il n'y a plus non plus ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Il y avait d'énormes différences de traitement entre les hommes et les femmes, entre les esclaves et les hommes libres, évidemment. Mais les femmes étaient presque comme des esclaves. Hein. Encore aujourd'hui, il y a un rapport qui a fait état que les femmes touchent 20% de moins de salaire pour le même travail. Donc il y a toujours une inégalité qui existe hein, dans le monde de l'entreprise. Mais quand même, il y a beaucoup de choses ont changé pour les femmes. Mais en Christ, nous sommes un. Nous avons le même accès, le même salut, le même pardon. Aux yeux de Dieu, nous sommes hommes, femmes, juifs. Non-juif, ce qui compte, dit la parole de Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. Nous sommes tous issus d'un seul sang. Nous sommes tous descendants de Noé, qui lui-même était descendant d'Adam et Ève. Et il n'y a pas de race supérieure ou inférieure. Simplement, ce qui compte, c'est de venir à Christ et d'être sauvé, de lui demander pardon de nos péchés. Christ est celui qui fait la paix, c'est le Messie de la paix. Il veut faire la paix entre nous et Israël, les Juifs, entre nous et les Arabes, parce qu'il y a des problèmes aussi. Certaines personnes n'aiment pas les Arabes, par définition, par principe. entre nous et tout autre pays et culture. Le Seigneur nous appelle à faire la paix, à être des personnes de paix qui annoncent l'évangile de paix. Faire la paix, ça ne veut pas dire faites ce que vous voulez et nous on fait ce qu'on veut. C'est pas ça faire la paix. Faire la paix, c'est apporter la paix. Apporter l'évangile, la bonne nouvelle, le message de Christ, paisiblement. Que nous ne soyons pas des chrétiens sectaires ou racistes, mais que nous soyons des chrétiens qui vont partout apporter la bonne nouvelle aux êtres humains, portés par l'Esprit de Dieu. Comme Paul l'a fait en son temps, il a dû passer par beaucoup de préjugés, mais il avait cette grandeur d'âme et cette obéissance au Saint-Esprit. Ça ne l'a pas dérangé d'aller parler à des païens, de vivre avec des païens, parce qu'il avait l'amour de l'Évangile. Je pense aussi à ceux qui doivent partir en mission. On va dans une autre culture, un autre pays où les gens vivent différemment et il faut s'adapter. On n'apporte pas être missionnaire dans un pays comme l'Afrique ou l'Asie, ce n'est pas aller apporter la culture occidentale aux Africains ou aux Asiatiques. Pourtant, c'est ce que beaucoup de missionnaires ont cru faire. C'est apporter l'Évangile et que cet Évangile puisse changer leur mentalité là où elle est mauvaise, leur culture là où elle est idolâtre ou mauvaise, mais que cet Évangile soit adapté à leur vie. Voilà. Et ça, c'est ce que j'ai découvert quand, notamment, j'ai été au Cameroun. Hein, comment l'Évangile se vit à sa façon, là-bas, dans la brousse ou dans la forêt équatoriale. C'est pas pareil qu'à Paris, on n'a pas la même façon de voir les choses, mais on est sauvé pareil. C'est le même message et le même Dieu. Merci de votre attention.